Bienvenue sur Fun Tugs, émission aux saveurs multiples. La mission, ravir vos papilles auditives ou découvrir de nouveaux mythes. À tous les aventuriers des ondes qui cherchent une idylle sonore, à tous les intrépides de l'ombre qui se cachent des signaux mornes, rejoignez notre monde. Fait de si belles syllabes où se mordent les décibels dans de somptueux éclats. Un vendredi par mois lorsque la lune est pleine, 93.9 pour les plus téméraires, 10h30 minuit au détour d'une antenne, on serait ravis de vous emprunter une oreille.
Je proclame la destruction.
Ce soir, on reçoit Jérémy Lipman, qui a entre autres été acteur pour Jean-Luc Godard. Il a été félicité pour son incarnation de Gainsbourg au théâtre et son spectacle « La Vénus et la fourrure » interprété par Marie Gillin et Nicolas Briançon a obtenu 2 Molières. Il est le metteur en scène de ce spectacle dont nous allons parler ce soir, « Éloquence à l'Assemblée ». Un spectacle, ils ont un seul en scène atypique, comme on va le voir. Il a coécrit ce spectacle avec l'aide de Pierre Grillet, parolier, qui a entre autres écrit les chansons pour Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Christophe, Alain Bachung. Et le troisième protagoniste est celui qui est sur scène de retour cette année pour son duo NTM, toujours sur le front, entre autres pour ce devoir de mémoire. Récemment, il a prêté sa voix à Raoul Peck pour un documentaire I'm Not Your Negro où il reprend la voix de Baldwin.
Mesdames, mesdames, messieurs, celui qu'on va accueillir maintenant, il mesure 1m80, 83 kilos. Ce n'est pas son dernier combat, ce n'est pas son ultime combat, c'est seulement un combat de plus devant vous. Certains le surnomment le chat amérindien. D'autres surnomment le jaguar Gorgone. On va l'accueillir comme il mérite, comme il se doit. Ce soir, il va être encore une fois seul contre tous. On va l'accueillir comme un immense champion qu'il est. Mesdames, mesdames, messieurs, tout le monde debout et tout le monde tape dans les mains pour accueillir celui qui vient du 93. Joey
Psycho, ego sans ego. J'arrive, combattant de la nuit, spectateur.
Bonsoir, le vendredi, vous êtes sur Funtug. Est-ce que tout le monde a bien ses micros?
J'ai l'impression qu'ils sont ouverts.
Ah, merci d'inaugurer cette année, en fait, nouvelle année d'émission avec nous. Donc Jérémy Lippmann à ma gauche et Pierre Gris à ma droite.
On est gâtés.
Et ouais. Johanna en studio.
Et bonne année. Hein.
Au cœur du spectacle qui a été le prétexte de se réunir autour de cette table, c'est donc Éloquence à l'Assemblée. Donc Jérémy, toi tu corrigeras parce que tu as plein de facettes, mais tu es plutôt connu en tant qu'acteur et tu as travaillé avec différents metteurs en scène jusqu'à devenir plus ou moins metteur en scène, même si ce n'est pas un mot que tu acceptes forcément. Tu serais ouvrier du spectacle, comme je l'ai vu quelque part.
Oui, oui, je préfère ce mot-là.
Il est metteur en scène quand même.
Oui, quand même. Hein.
Plus ou moins.
Dans les faits.
Il est plutôt plus que moi, je pense.
Et toi, Pierre Grillet, tu intervenais avec Jérémy en qualité de parolier. Et c'est aussi un métier ou une grande qualité que tu as exercé avec nombre de personnalités, chanteurs de la musique française.
Oui, j'aime beaucoup écrire des chansons, c'est vrai. J'ai toujours aimé, j'aime de plus en plus, j'aime beaucoup le faire. Et donc, donc on a fait ce spectacle ensemble.
Éloquence à l'Assemblée, donc, c'est un spectacle qui a été créé au Théâtre de l'Atelier il y a un peu plus d'un an.
Oui, un peu plus d'un an, un an et demi maintenant.
Et donc une tournée au printemps 2017, bien ça ?
Exactement, c'était juste avant, en fait, on l'a créé juste avant les élections présidentielles. Et comme je vous disais tout à l'heure, derrière là, on a joué une dizaine de fois à Paris et après on est parti en tournée. Et depuis ce moment-là, nous sommes en tournée et on est revenu à Paris là pour une ou deux dates. Et après ça repart en tournée.
Et puis une troisième date, tu m'as dit, donc là on peut annoncer avant toute chose le 21 janvier, il sera la prochaine date au Théâtre du Rond-Point.
Voilà.
Des dates qui sont vite annoncées complètes. Et un spectacle qui a eu du succès aussi parce que vous l'avez joué dans des endroits hors du commun. Et il a eu une médiatisation en conséquence. Donc on se souvient de ce passage à la gare Saint-Lazare.
Ouais, ça c'était vraiment bien, la gare Saint-Lazare.
Particulièrement ?
Ouais, c'était vraiment bien. C'était une version un peu plus courte. Et puis les gens prenaient leur train, ils s'arrêtaient, ils rataient leur train. C'était vraiment un moment assez unique.
Donc de quoi s'agit-il cette mise en scène, cette relecture de texte, enfin on peut l'appeler de différentes façons, c'est un choix de texte que tu as fait, Pierre, issu de grands discours qui ont été prononcés à l'Assemblée.
Une fois qu'on avait ce titre-là, Éloquence à l'Assemblée, après le chemin était tracé. Je ne suis pas particulièrement savant, j'ai découvert les textes en même temps que je les ai lus. On a choisi ceux qui nous touchaient, qu'on trouvait très correspondants avec l'actualité.
Et alors l'éloquence, c'était un désir commun. Votre rencontre était antérieure à ce projet, Jérémy et Pierre ?
Oui.
Avec Pierre, on se connaît maintenant depuis 4-5 ans.
Voilà.
Et on a tout d'abord une amitié et moi un respect pour l'artiste que c'est et l'homme que c'est. Et après, on a collaboré sur divers projets avant de faire celui-là. Et on avait vraiment envie, quelquefois, on se retrouve à la maison, il vient manger un poulet rôti ou des saucisses achetées en bas. et on parle de choses et d'autres. Et on avait le désir de repartir sur un projet. Et Pierre me disait, à trouver ce titre, Éloquence. Et moi, c'était au cours de discussion où je lui disais qu'au théâtre aujourd'hui, je trouve que dans le paysage, l'éloquence n'est plus vraiment là, quoi. C'est-à-dire que il y a quelque chose de propre, quelque chose de conventionnel qui est en train de débarquer depuis un certain moment au théâtre. Et je crois qu'on n'écoute pas le spectateur et que le spectateur, quand il vient au théâtre, il vient au théâtre. Et ça veut dire avoir un peu de générosité de la part des acteurs et en tous les cas de vivre une aventure. Et donc à partir de là, on a commencé à réfléchir à ces textes qui sont notre patrimoine, et de se dire, en plus comme c'était juste avant les élections, ils avaient carrément une résonance, et à partir de là, après, Pierre, il a fait un travail merveilleux de faire ce montage, mais comment dire, c'était des questions nécessaires.
Il faut être gonflé pour couper dans Victor Hugo. Hein. Vraiment, t'as honte, quoi, au début. Mais après, comme les gens pensent qu'il est comme ça, le discours, ça va. Mmh.
Qu'est-ce qui vous avait réuni comme premier projet ? C'était déjà le texte ou c'est vraiment autre chose ? Vous aviez travaillé tous les deux sur quel autre projet ?
En amont, on avait monté une pièce. Enfin, j'ai monté une pièce et Pierre l'avait traduite, qui était... une pièce que j'avais été chercher à New York après la Vénus à la fourrure que j'avais montée. On m'avait envoyé voir un spectacle qui s'appelait La Rivière de Jess Butterworth. Et après, on m'a demandé de le monter en France. Et moi, le texte, il était en anglais. Et je dis à Pierre, est-ce que ça te brancherait de faire la traduction ? Parce qu'il y avait quelque chose de très, très poétique à l'intérieur de ça. Et Pierre a fait l'adaptation française. C'est un spectacle qu'on a adoré faire, qui a fait un four énorme, mais qui était mortel.
Ouais. Alors, quelle était la clé de ce spectacle ?
De la rivière,
ouais.
En fait c'était sur la pêche à la mouche et en fait à l'intérieur de la pêche il y a tout un truc, c'est le sexe, il y a quelque chose de très rock'n'roll là-dedans et de l'apprentissage de la vie comment dire, à l'intérieur c'était un homme qui au cours d'une soirée avait un besoin de se retrouver dans cette cabane au milieu d'une forêt et d'emmener une femme pêcher. Mais c'était très inspiré de Ted Hughes, qui est un poète anglais et qui est un homme assez particulier, qui a eu trois femmes, dont Sylvia Plath, qui est une grande poétesse, je crois, ou poète. On s'en fout, hein. En tous les cas, c'est une grande écrivaine. Et la particularité de cet homme-là, c'est que ces trois femmes se sont suicidées. Et donc il y avait une corrélation voilà, très forte avec ça. Mais
le Français... décor était très réussi, c'était très beau, la mise en scène vraiment magnifique.
Bon, en tout cas,
nous a branché là-dessus, on part.
Mais bon, j'ai l'impression que vous êtes entouré quand même chacun de succès.
Bah non, on parle justement d'un four.
Donc on peut avoir bien quelques petits fours de temps en temps, qui soient pas des petits fours de succès.
Ouais. Ouais, mais parce qu'il faut les aimer aussi, les fours. Il faut jamais en avoir peur. Et vous voyez, c'est un spectacle, quand je dis ça, c'est que c'est un des spectacles dont je suis extrêmement fier. Et les gens qui l'ont vu, même s'ils sont pas aussi nombreux que ce qu'on aurait désiré, surtout la productrice, hein, parce que nous, on s'en fout, on n'a pas mis de rond dedans. Mais les gens qui nous en parlent, 3 ans après, ils ont été bouleversés par ce truc-là. Et moi, ouais. Je dis que quelquefois, il vaut mieux un spectateur ou deux spectateurs que ça marque, que plein de spectateurs qui disent ouais c'était sympa.
Mais bon, oui. Là tu l'évoquais tout à l'heure à propos d'éloquence à l'Assemblée, parfois c'est l'inverse, c'est-à-dire le succès et vous marchez sur des œufs au départ parce que tu ne connaissais pas Didier Joystar, vous ne savez pas ce que ça allait donner, et puis finalement il a pris plaisir à jouer, il y a eu plus de représentations que prévu, puis après il y a une question d'époque aussi. Ça, c'est quelque chose que tu dois avoir bien expérimenté, Pierre, par rapport aux personnalités avec lesquelles tu as pu travailler, de voir que certaines fois, ça marchait ou ça marchait pas, et surtout dans le monde de la chanson, n'est-ce pas ?
Mais tu parlais d'époque, c'est-à-dire quoi, l'époque ?
Si
t'es pas dans l'époque, ça marche pas. Mais
l'époque
tout le monde
est pleine de surprises, et puis peut ressortir d'autres époques, comme aujourd'hui ces textes qui réémergent d'une ancienne, une ancienne période, une période même quasi, extrêmement éloignée, plusieurs siècles parfois, et s'apercevoir que c'est extrêmement contemporain aussi, c'est étonnant.
Très étonnant.
C'est ça qui fait peur presque.
Mais tu te rends compte que rien ne change et que. Je lisais l'autre jour une phrase de l'histoire est un feuilleton sans conclusion. Je trouve ça assez juste. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes acteurs, tu les retrouves pendant des années, et puis il y a des épisodes, des guerres, des morts, et puis ça continue, quoi. On ne sait pas comment ça va finir. Mais quand tu lis ces textes, tu vois que peu de choses ont changé quand même. La misère, la corruption, la politique, ça se répète.
Des enjeux constants, quoi. Des forces en présence. Est-ce que,
Là, aujourd'hui... ce qu'on vit, et en plus nous on n'avait aucun désir d'être de revendiquer quelque chose de politique, ou en tous les cas moi dans mon travail c'est pas quelque chose, mais
c'est arrivé au moment des élections, donc ça a dû quand même être assez
ouais ça a eu un impact très fort parce qu'il y avait Fillon en plus qui était en galère avec sa femme et tout, donc le truc quand t'as Lamartine qui parle du vice dans le système, c'était en plein dedans. Mais aujourd'hui on parlerait de Victor Hugo qui fait un discours magnifique qui est sur l'abolition de la misère. On est en plein dedans, et tout ça quelquefois c'est des textes qui sont nous on les connaissait pas plus que ça, d'ailleurs Didier il le dit souvent dans les interviews qu'on a autant appris que les gens qui viennent. Nous on savait qui était Victor Hugo, qui était Lamartine, qui était Olympe de Gouges, mais ce qu'ils ont fait et le combat qu'ils ont mené, il était tout d'abord d'une part pour le peuple, vraiment, profondément, quand on écoute leurs discours. Ça a été une des grandes questions, hein, Pierre, qu'on a eues quand on a gardé ces discours-là, parce qu'il y en avait d'autres qu'on a enlevés, qu'on a essayé, mais qu'on a enlevés parce qu'ils étaient trop techniques. Et aujourd'hui, les discours qu'on nous fait, même quand on entend encore le président de la République, il n'y a pas si longtemps, nous faire ses voeux, il y a un truc où on a l'impression de comprendre et d'avoir rien compris parce qu'il ne nous a pas dit grand-chose. Quand t'entends le discours de Victor Hugo sur la misère, t'as pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre que lui, il t'explique qu'il va falloir l'abolir, cette putain de misère. Et je trouve que c'est quelque chose qui est important parce que ça fait du bien aussi. On a le droit d'être fier d'être français. C'est pas en tant que chauvin ou tout ça, mais quelquefois on en a. Et aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe, on peut en avoir marre, quoi. Et que ces grands hommes et ces grandes femmes aussi, qui ont fait notre histoire et qui font aussi notre présent, de les réentendre, on se dit qu'il y en a qui sont bien battus et que ça serait bien de ne pas perdre le combat, quoi.
Et de ne pas oublier qu'il a déjà été amorcé et peut-être bien avancé dans certains cas. Et ouais. Ces combats dont tu parles, toi qui viens du théâtre aussi, parce que vous avez eu cette envie de mettre en avant l'éloquence, donc un peu l'emphase du discours, peut-être quelque chose qui induit un seul en scène, qui induit une confrontation un peu. Comment vous envisagez l'éloquence? D'où venait cette idée qui n'était pas forcément liée à des écritures de textes?
Non, mais Jérémy, il voulait faire un truc sur les avocats, il avait les plaidoiries, les trucs. On est. Quelque chose qui tournait autour de ça, donc.
De porter individuellement un discours.
Parce que moi j'aime les mots, quoi. Comprendre. Donc j'adore les mots, et quand ils sont bien employés, et quand ils portent. On est allé voir ce truc des avocats.
Eloquentia, non.
L'autre.
Berryer, les conférences Berryer.
Conférences Berryer.
Intéressant, ça.
Ça, c'est incroyable.
Donc pour remettre dans le contexte, ça a lieu, je ne sais plus où est-ce que ça a lieu, dans Paris, mais donc c'est une tradition pour les avocats, les jeunes avocats, de s'exercer.
Je ne vais pas le raconter parce que c'est trop long à raconter.
Mais en tout cas, historiquement, il y a des grandes personnalités qui sont invitées régulièrement. Il y a une sorte de joute.
C'est une joute oratoire entre 12 avocats et 2 prétendants à faire partie de ces avocats. Et... Donc ils sont tous très éloquents pour se démonter. Ils sont d'une méchanceté, mais incroyable, mais avec beaucoup d'humour. Et tout le monde encaisse, c'est le métier des avocats, j'imagine, d'encaisser. Et donc c'était très intéressant, j'aimerais beaucoup y retourner. Je conseille à tout le monde d'y aller, je crois que c'est gratuit, c'est payant de temps en temps.
Ouais. Et Gainsbourg d'ailleurs est invité, Salvador Dali, j'ai regardé un petit peu.
Vous avez regardé?
Ouais, ils se sont défendus. Dali par exemple a essayé de faire un monologue en catalan et pas du tout les laisser parler. c'est un peu le théâtre de leur vie publique, le rapport aux médias.
Ouais, non, c'était assez drôle. Didier, il s'est pas trop défendu, c'était lui l'invité ce jour-là.
Et c'était un hasard par rapport au spectacle qui s'est monté ensuite?
Non, ça n'a rien à voir. Tout est lié, quoi. Mais Didier, il est invité à faire plein de choses. Mais donc, c'était drôle parce que c'était au théâtre de l'Atelier. C'était
d'accord.
C'est pour ça que c'était marrant.
Ok, très bien. Et toi, par rapport à ton expérience au théâtre, tu disais que ça manquait un petit peu cette forme d'éloquence. Mais tu viens des cours Florent. Est-ce que c'est... Est-ce, Est-ce que c'est pas quelque chose quand même qu'on encourage aussi, d'être cette forme d'éloquence? Est-ce que ça disparaît dans le théâtre d'aujourd'hui? Il y a plusieurs théâtres aussi aujourd'hui.
Bien sûr. Non, quand je dis ça, c'est un peu présomptueux. C'est moi de ce que je vois. Parce qu'il y a toute forme. Et puis là, on parle de la France, mais après en Angleterre, après dans les pays de l'Est, il y a des formes nouvelles, des formes de tout genre. Et on vit une époque aussi qui s'ouvre vachement. Donc il ne faut pas du tout être pessimiste par rapport à ça. Après, je dis dans le milieu parisien, quelquefois, on se retrouve avec... Avec un manque, à mon sens, hein, ça m'est très personnel, un manque de générosité et d'incarnation, parce qu'on a toujours peur du regard. Le français peut avoir peur du regard, et que s'il y a bien un endroit où on reste, je sais pas, moi je suis toujours frappé au théâtre parce que ça reste un lieu et un outil où on est comme un enfant, qu'on est 10 ans ou qu'on est 70 ans ou 80 ans, il y a un mec qui vous dit là c'est l'Amérique, et ben s'il y croit vraiment et qu'il le dit sincèrement, il n'y a pas besoin de décor, besoin de rien, le spectateur est prêt à y croire, à croire aux histoires. Et en fait je crois que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'y croire, mais quand il y a la sincérité. Quand il n'y a pas de sincérité, on n'y croit plus, et c'est ce qui manque un peu aujourd'hui, la sincérité des projets. Pourquoi veut-on les faire? Pourquoi on les fait? C'est des vraies questions. Là, je vais monter un spectacle là-dessus, là, en septembre.
Qui parle du théâtre?
Qui parle de l'art en règle générale. Sur le peintre Rothko.
D'accord.
Ouais, lui, c'était un puriste là-dessus. Un peu obtus dans sa pensée, mais quelqu'un qui était nécessaire. Sur l'exigence, sur pourquoi on fait les choses.
J'ai l'impression aussi, en ayant un petit peu des éléments très petits, mais chronologie différente de ton parcours, Jérémy, que tu as toujours eu un petit peu, ou peut-être que tu as été amené à dépasser rapidement ces rencontres, mais tu fais des choix qui nous emmènent un peu au-delà des préjugés, de manière un petit peu instinctive, je dirais. Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a déjà renvoyé comme observation?
Moi, je peux pas trop y répondre. C'est pas moi comme ça que je vois les choses de mon point de vue. Moi, c'est ce que je vous dis, c'est que j'essaye de faire les choses par envie et par nécessité. Quand j'entends nécessité, c'est d'avoir envie profondément de le raconter, et la vie a fait qu'à chaque fois que j'ai pas eu ce sentiment et que je l'ai fait pour d'autres choses, ça s'est planté, et je crois que ça c'est quelque chose qui est pour tout le monde. Quand il y a une sincérité, souvent ça marche. Quand on fait des choses avec trop de désir de vouloir un résultat, tout ça, ça peut partir en couille.
On va écouter un extrait du spectacle. Est-ce que notre opératrice est prête? On va écouter Victor Hugo.
L'euthanasie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent sans cesse y songer. Car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. La misère, messieurs, j'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir où elle en est, la misère? Non, ça n'intéresse personne. Je ne dis pas en Irlande. Je ne dis pas au Moyen-Âge. Je dis en France. Je dis à Paris. Et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits? Vous inquiétez pas, j'ai une hygiène impeccable. Hein. Mon Dieu, je n'hésite pas à les citer, ces faits. Ils sont tristes, mais nécessaires à révéler. Et tenez, s'il faut dire toute ma pensée, je voudrais qu'il en sortît de cette assemblée, et au besoin, j'en ferai la proposition formelle. Une grande et solennelle enquête sur la situation vraie des classes laborieuses et souffrantes en France. Comment veut-on guérir le mal si l'on ne sonde pas les plaies? Il y a dans Paris, dans ces faubourgs, le Paris des rues, des maisons, des cloaques, où des familles entières vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture que des monceaux infects de chiffons, ramassés dans la fange au coin des bornes. Espèce de fumée des villes où des créatures humaines s'enfuissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. En voici d'autres. Ces jours derniers, un homme, mon Dieu, un malheureux homme, homme de lettres, car la misère n'épargne pas plus les professions libérales que les professions manuelles. Un malheureux homme est mort de faim. Mort de faim à la lettre. Et on l'a constaté. Après sa mort, il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté, pour que de telles choses ne soient pas. Je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire. De tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme. Ce sont des crimes envers Dieu. Je voudrais que cette assemblée, majorité et minorité, n'importe. Je voudrais que cette assemblée n'eût qu'une seule âme pour marcher à ce grand but, à ce but magnifique, à ce but sublime. L'abolition de la misère. Messieurs, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez sauvé la société régulière, la paix publique, la civilisation même. Vous avez fait une chose considérable. Eh bien, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, j'insiste sur ce point. Tant que l'ordre matériel raffermi n'a point pour base l'ordre moral consolidé. Vous n'avez rien fait. Tant que le peuple souffre, vous n'avez rien fait. Tant qu'il y aura au-dessus de vous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait. Tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Tant que ceux qui sont vieux peuvent être sans asile. Tant que l'usure dévore nos campagnes. Tant qu'on meurt de faim dans nos villes. Tant qu'il n'y aura pas des lois fraternelles, des lois évangéliques qui viennent de toutes parts en aide aux pauvres familles honnêtes, aux bons paysans, aux bons ouvriers, aux gens de cœur. Vous n'avez rien fait tant que l'esprit de la révolution a pour auxiliaire la souffrance publique. Tant que l'homme méchant a pour collaborateur fatal l'homme malheureux. Messieurs, c'est l'anarchie qui ouvre les abîmes. Mais c'est la misère qui les creuse. Vous avez fait des lois contre l'anarchie. Faites maintenant des lois contre la misère.
De retour sur Funtug en ce vendredi 4 janvier 2019 avec Pierre Grillet et Jérémy Lipman, et on vient donc d'écouter un extrait d'un texte de Victor Hugo sur lequel donc tu as travaillé, Pierre.
Oui.
Jérémy, ça te faisait penser justement à l'intervention qu'on vous avait donnée, cette lecture jouée dans la gare Saint-Lazare, qu'un événement qui n'était pas trop, qui n'était pas attendu, qui était un peu une surprise.
Non, je disais pendant la pause que mesdames et messieurs qui écoutaient cette émission, que je disais à Eglantine, voilà, qui nous a invités avec Pierre, que c'était pour
la
moi et pour nous la première fois que ce discours était envoyé dans les ondes, et que déjà ça, pour nous, c'est une victoire, voilà, c'est tout.
Ce travail sur les textes, Pierre.
Ouais, tu vois, t'entends, c'est Victor Hugo, c'est magnifique. Alors, il est beaucoup plus long, le discours. Donc, j'avais juste à les construire de manière à ce que ce soit jouable en 1h10.
Non, mais il est très humble, là, Pierre.
Et qu'on s'ennuie pas.
Non, mais oui, mais bon, c'est un travail monstrueux quand même qu'il a fait. Et que autour de ce travail-là, il y a, aujourd'hui on peut le dire, voilà, beaucoup de gens qui sont venus voir ce spectacle, et des gens de divers horizons, et c'est le plus important, mais il y a aussi des gens qui étaient prêts à descendre le spectacle, et ils ont plébiscité le travail qu'a fait Pierre, voilà, et que même les historiens, même les fans, on n'a jamais eu une remarque.
Non, mais les gens, parce que les gens ne les connaissent pas.
Mais aussi parce que tu as gardé l'authenticité de la parole de.
Ah bah, je n'ai pas.
Et le style des auteurs.
Ah bah, quand même. Déjà coupé, c'est énorme. Je n'ai pas en plus, je n'ai pas les trafiqués. Je les ai juste édités, comme on dit. Voilà.
Je me suis posé une question, alors qui est plus. Là, on peut y arriver sur le choix de proposer donc, cette lecture à Joey Starr, qui incarne une culture qui peut sembler être éloignée de celle du théâtre, mais Est-ce qu'il y a vraiment des cultures différentes? En tout cas, j'ai l'impression que, et c'est ce que j'ai trouvé formidable, c'est de pouvoir avoir Joey Stark qui incarne une génération et une forme d'expression, on va dire, qui semble lointaine de celle du théâtre, et de pouvoir l'amener à être sur scène, et donc d'être face à un public qui n'est pas forcément
Joey, il est curieux. C'est un mec qui a envie de faire beaucoup de choses différentes. Donc on lui propose ça. Il se trouve qu'on pense à lui d'abord en premier. J'appelle mon agent en lui disant, dis-moi, tu n'as pas quelqu'un chez toi qui pourrait faire ça? Elle me dit, Joey Stark vient de rentrer chez moi. Je suis son agent. J'ai dit, on vient de parler de lui, c'est lui qu'on veut. Vraiment, tu te rappelles? Donc, on n'a pas hésité en se disant machin ou l'autre. On avait vraiment envie que ce soit lui.
Non, mais surtout, après, parce que ce que Pierre dit, c'est le plus important. Et en même temps, après, moi, de mon côté, forcément, il y a des immenses acteurs. On a des immenses acteurs en France qui disent, et c'est là où, après, je t'ai perdu parce que je pensais que tu voulais parler de ça, sur la poésie et tout ça, mais des gens qui auraient pu dire ces textes-là de façon impeccable. Il y en a quelques-uns des acteurs qui auraient pu le faire vraiment très très bien et qui auraient été certainement très bien, comme Podalides, comme Gallienne, enfin, ou d'autres. Mais je crois que en tous les cas, moi, ce que je recherchais avec Pierre, ce qu'on recherchait, et c'était de là où est venue la première idée de Didier, c'était quelqu'un qui avait, qui était un artiste, quoi, et qui allait y aller pour les bonnes raisons, s'il avait juste envie de dire ces textes-là. Et je pense, et on l'avait dit une fois au cours d'une des dernières répétitions qu'on a faites, et la dernière répétition, elle était d'aller faire la visite du Panthéon, et on a été voir Victor Hugo, on a été voir ces hommes et ces femmes qui sont enterrés là-bas, chez nous à Paris, et je lui ai dit, je pense que si Victor Hugo, ainsi que Robespierre, ainsi qu'Olympe de Gouges, se réveillaient, et je pense qu'ils se réveillent, moi, je crois que les morts, ils se réveillent de temps en temps, et qu'ils t'entendaient les dire, ils se diraient que tout n'est pas niqué. Voilà, que les choses s'ouvrent et que le combat continue. Parce que dans ce que propose Didier, c'est pas parfait, mais en tous les cas, c'est vrai. Et ça fait du bien.
Et lui, quand il a découvert ses textes, les auteurs qui devaient en partie connaître, ça a été évident. Ça a été évident de comprendre l'intention, justement, ou de se l'approprier.
Non, mais par contre, ce que dit Pierre, c'est qu'il a appelé donc Annabelle, son agent, qui est l'agent de Pierre, et on a envoyé les textes à Didier, et ce qui a donné envie à Didier, c'est pas ni moi, ni Pierre, ni le théâtre, c'est les textes. Et il a rappelé en disant, moi, ces textes-là, j'ai envie de les faire. Et après, on s'est rencontrés, et voilà, c'était les mots. Didier est quelqu'un qui est très attaché aux mots, très sensible par rapport à ça.
Il adore Antonin Artaud, il aime les mots, il aime la poésie, il est sensible.
Et ça, j'en doute pas. Et justement, sa propre, enfin lui, c'est quelqu'un qui est plein de, enfin son travail d'artiste, si on peut appeler ça un travail, bien sûr.
Non, mais c'est un joli mot que vous dites. C'est artiste, c'est pour moi souvent quelquefois on me dit ouais, alors Didier, c'est devenu un acteur de théâtre et tout. Et je dis pour moi, ça n'a jamais été Et pour moi, c'est le plus beau compliment. Mais c'est que c'est un artiste. Ouais, ça change pour moi.
C'est une épreuve d'artiste, comme dit Michel Berger.
Oui.
Savez-vous ce que représentent 80 maisons de la culture? Le coût de 25 km d'autoroute. Le problème est de faire pour la culture ce que la Troisième République a fait pour l'enseignement. Chaque enfant de France a droit au tableau, au théâtre, au cinéma, comme à l'alphabet. Et pour finir, les peuples demandent de la culture. Nous sommes les premiers à avoir osé tenter cette chance. Merci.
Ce C'est vrai que l'Assemblée nationale, deuxième lieu où vous avez joué le spectacle, si on peut utiliser ce vocabulaire théâtral, met en lumière aussi l'origine de ce que c'est que l'Assemblée nationale, qui est quand même le lieu où souveraineté du peuple a été plutôt établi.
Tous les discours qu'on dit dans ce spectacle-là, ils ont eu lieu à l'Assemblée nationale. Donc pour nous, et ça c'est parce que j'ai rencontré une fille extraordinaire, très talentueuse, une actrice, et aussi qui s'appelle Alexandra Luciani. Et je l'ai rencontrée et elle m'a dit, ouais, vous voulez pas venir jouer éloquence à l'Assemblée nationale? Et je dis, mais attends, tu déconnes et tout. Elle m'a dit, non, est-ce que ça vous pencherait? Je dis, bien sûr, enfin, faut d'abord que j'en parle à Didier et puis que j'appelle Pierre, voir si ça les penche, parce que c'est une histoire à trois. Et j'ai appelé Didier et je dis, voilà, on a une proposition pour jouer à l'Assemblée nationale. Il m'a dit, toi, tu déconnes. Je dis, non, j'ai l'impression que c'est un peu vrai. Et voilà, les choses se sont faites comme ça. On a été déjeuner là-bas avec Pierre et Didier, très bien reçu. Et on a œuvré derrière, mais c'était une émotion folle et en même temps, pour moi, un sentiment d'espoir. C'était un mardi soir, mais que Didier acte dans ce lieu-là où ces discours-là ont été prononcés et tout, c'était un truc de malade mental, quoi. C'était vraiment...
On revivait la puissance que ça pouvait être de...
Ah ouais, moi je crois au mur, ouais, je crois qu'il transpire et que d'un seul coup, je crois pas que ces discours-là ont été reprononcés au sein de l'Assemblée nationale avant que Didier le fasse, quoi. Et d'un seul coup, ça a eu une résonance, il y avait beaucoup de députés ce jour-là. C'était ça voulait pas rien dire, quoi. Ça voulait vraiment pas rien dire. C'était... Très...
Député républicain qui écoutait entre autres le discours de Robespierre, qui était l'un de ses derniers discours avant qu'il soit
guillotiné, ça s'appelle.
Voilà. Et rien de drôle en fait, mais plutôt assez fou de se dire que qu'on fait revivre voilà, qu'il y a aussi des derniers textes, des textes qui sont...
Ah, celui-là, je suis fait pour combattre le crime, non pour le gouverner.
Vous imaginez,
c'est vertigineux.
C'est magnifique. Et l'autre, il s'est fait couper la tête pour avoir dit ça. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de politiciens ni de députés qui seraient capables. C'était pas...
Les prémices sanglantes de la République.
Non, mais on peut en discuter. La Révolution française, c'est vaste comme sujet. Mais c'est pas ce qu'on apprend vraiment dans les livres à l'école, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est pas le sujet ce soir, mais ça m'intéresse.
Après, j'essaie de faire les parallèles en me disant que... je rapporte aussi les impressions qu'on peut avoir en voyant le spectacle et l'incarnation que donne Joey de ces grands personnages. Qu'on n'a pas l'habitude de...
Mais on a toujours dit que c'était une lecture. Et donc, c'est resté comme ça jusqu'à maintenant. Donc, ça met un peu une distance. Il n'est pas là en train de les jouer ou de les interpréter. C'est une lecture.
Mais il y a un télescopage parce que lui est très présent et qu'il est aussi l'auteur de textes, de chansons qui sont très forts et qui ont une résonance avec l'actualité.
Mais il y a des gens qui ne se rendent pas compte que c'est une lecture.
Une forme d'engagement.
C'est drôle.
Au sens où, qu'est-ce qu'ils en disent par exemple?
De quoi? Il y a des gens qui se rendent compte qu'après coup que c'était une lecture. Ils pensent que vraiment il les a interprétés, quoi.
Mais il les interprète quand même, il fait aussi également des apartés.
Ah ben oui, il fait des apartés, c'est ça qui est bien.
Et ça, c'est venu directement dans sa
proposition. C'est lui. Il les a pas préparés. Il y en a certaines qu'il a repris tous les soirs, mais très peu en fait.
C'était dans les conditions du jeu?
Pas du tout.
Non, au départ, c'était pas forcément quelque chose auquel on avait pensé avec Pierre, mais ça s'est inscrit assez rapidement. Et après, pour moi, le théâtre. Il a, je sais pas, comme une formule, quoi, mais en tous les cas, ça doit rester du spectacle vivant. Et que pour moi, justement, ça fait partie. Et donc, d'un seul coup, quand il a injecté aussi, lui, à l'intérieur de ça, enfin, je ne sais pas si c'était des envies, enfin, peu importe, je ne suis pas lui, mais...
Non, mais il réagissait au public, beaucoup.
Mais par rapport à ça, je me suis dit que ça avait une réelle impact et que ça ne dénaturait pas du tout le propos et qu'au contraire, ça introduisait les gens. Et je crois que quelquefois, quand on casse le quatrième mur, ce qu'on appelle au théâtre le quatrième mur, c'est vraiment la séparation du rideau et du spectateur, et qu'il y a une connivence ensemble qui se fait, c'est sympa, ça fait du bien, voilà, ça fait qu'on se prend
non,
pas
mais
au
les
sérieux.
Non, les gens, ils aiment bien.
Voilà, c'est aussi un partage, et c'est là aussi où on peut voir l'impact et la répercussion de ces discours encore aujourd'hui. Si les gens réagissent, s'ils ne diraient pas un mot, on aurait dit, bon bah merde, on a peut-être loupé notre truc. Mais là, les gens, ils sont contents, quoi, que d'un seul coup, ils puissent...
Est-ce qu'on parle du rap ? Voilà, c'est ça, moi, l'idée que j'avais. C'est que c'est quand même...
c'est quoi l'idée que tu avais ?
C'est qu'il incarne, le rap. Il incarne le rap français.
C'est pas quelque chose auquel moi j'ai pensé en... Comment dire ? C'est pas ce qui nous a donné envie... Et eu l'idée avec Pierre, enfin là je parle en notre nom, mais là c'est plus. Mais c'est pas parce qu'il avait fait des chansons et tout ça que ça nous a donné envie de le prendre, quoi. Après, je pense que par contre, les musiciens, les chanteurs, quelquefois j'avais fait un spectacle sur Rimbaud et j'avais demandé à Mathieu Chély d'interpréter Rimbaud. Et on a fait ce spectacle-là, alors que d'autres gens m'avaient dit « Non, mais prends quelqu'un qui va dire bien les poèmes. » Et j'ai dit « Non, les acteurs, malheureusement, quelquefois, quand c'est les mots, ils ne savent pas. Il faut des phrases, des virgules, des points. Il faut une dramaturgie, tout ça. Les chanteurs, ils ont quelque chose de plus instinctif avec les mots. Et ça donne un truc plus vrai. »
Qu'est-ce que tu en penses, Pierre ? Toi qui connais bien les chanteurs.
Ah, mais c'est très dur d'avoir la vérité. De dire à un chanteur, vas-y, te prends pas la tête, chante, sois vrai, sois toi-même. Tu sais, des phrases que tu entends en studio, c'est terrible. C'est très dur d'être simple en chantant.
Non, mais tu sais, quand vous écrivez les chansons, ouais, elles riment.
Oui.
Et c'est comme des alexandrins. Enfin, d'une certaine façon, il y a du son et ça doit résonner. Oui. Un acteur, d'un seul coup, il peut très bien faire sonner et ça peut sonner faux. Un chanteur, c'est inscrit en lui. Enfin, c'est-à-dire que cette rime, c'est un flow qui s'introduit naturellement, qu'il a l'habitude de travailler.
Dans ses discours, il y a un flow dans les discours qu'on a choisis. D'ailleurs, quand on sur le prompteur, les phrases sont coupées, sont découpées. Pour le phraser, pour que ça... ça paraît normal, quoi. Rap, discours, Victor Hugo,
puisque tu le dis, alors voilà.
C'est pareil. Voilà.
Pardon. Toi, tu as pensé à ça, en écrivant, en recoupant les...
Il se tape un blinis, hein, je vous le dis, parce que vous entendez un bruit chelou et tout, mais...
Ouvert avec les dents,
Peter,
c'était
Pierre.
Après ce rapprochement sauvage entre le rap et Victor Hugo,
il faut pas
c'est
me
pareil.
Mettre de la boue.
Ah non. Très dangereux.
C'est bon, allez, on va s'octroyer une petite pause,
sympa.
Grâce à la présence audio de Joystar avec nous ce soir.
L'ombre, les insoumis parlent aux insoumis. Quelques nouvelles du jour. 9h15, un banquier dénonce son client sans papier aux autorités. 13h, les banques, après avoir touché des milliards d'euros publics, annoncent des milliards de profits privés. 23h, le salarié d'une agence bancaire, à cause du boulot, pète un plomb et prend une arme. Message personnel. Au pays du petit Nicolas, le CAC 40 est roi. Je répète, au pays du petit Nicolas, le CAC 40 est roi. L'extrême droite sort de sa planque et se frotte les mains. Deux fois, elle se frotte les mains. Le Fouquet sponsorise aussi la gauche caviar. Je redis, le Fouquet sponsorise aussi la gauche caviar. Appel à la résistance. De l'Europe au Maghreb, de la Grèce à l'Égypte, le peuple voit rouge. L'ombre des révoltes plane sur la crise, car résister, c'est exister. Ils divisent pour mieux régner, mais nous sommes le nombre immense qui ne connaît pas sa propre force.
par moments plus tranche. Parce que la masse me veut cache, me réclame sans relâche. Cache dans mes propos, c'est trop lourd pour faire en face. Qu'on m'accorde la relax, que la justice me lâche. Peux jouer à cache-cache, mais je crois que j'aime quand ça fâche. D'un autre côté, je suis altruiste et ça mec sans relâche. Je suis cache, dans mes propos jamais lâche. Mon constat est toujours cache, jamais mes mots je ne lâche. Lâche, l'affaire, ma suprématie est en marche. Et pour tout ce que je miroite, t'inquiète, mes yeux m'ont pas de cache. Négro, si je te clash, ce sera un énorme crash. Quand je remballe tes couplets prépubères, potaches. Ici c'est underground, sans repos ni relâche. Avec tes putains de caisses claires qui détonnent sans relâche. Ici on a la voix et on kill sans relâche. Me sors pas de ce que je veux du craco, qu'on me donne ma maille. Tourner cette fois maintenant, je préfère qu'on me l'arrache. Je suis pas un amas de chabrillon, comme ça qu'on déplace. Trop large pour l'échiquier, je prends la place et laisse ma trace. Même s'il va te peser, tu manques encore de masse. Car il est propre et ma guerre, tu tiendras pas face à face. Tu peux venir avec du fer, ton trou, je serai de glace. Cherche pas les miens et moi, on maîtrise tous les espaces. Je suis pas un anti-rouille, mais trop sur ta face. Dans cette décennie imprécise de lutte des classes, où je suis vérité sur mon terre-terre, I class. Est-ce que mon crew a le signal? Est-ce que mon crew a le signal?
Retour sur Fun Thugs avec Éloquence à l'Assemblée, ce spectacle écrit, on peut dire ça alors,
oui.
Écrit avec Pierre Grillet, mise en scène Jérémy Littmann, et des grands textes déclamés, écrits, réécrits, qui ont marqué l'histoire des
éloquentes
merci, de l'Assemblée nationale, donc déclamés par Joe Starr. Enfin, déclamé aussi, déclamé, lu.
Oui, voilà, lu.
Incarné.
Incarné, tout.
Est-ce que tu m'aiderais, Jérémy, à reprendre ce qu'on était en train de se dire, à peut-être mieux formuler voilà, cette idée que pour un public qui n'est pas du tout accoutumé à cette culture du rap, qui a pu avoir une image perdue au milieu de. Des diverses interventions médiatiques pendant des années de Joe Starr, de le voir sur scène et de pouvoir voir un charisme, le rapprochement de cet univers de l'écriture du rap avec.
Ils étaient curieux, les gens, je pense. Ils venaient le voir comme un peu une bête curieuse au début. Ils sont attirés, tout le monde est attiré un peu par la différence, quoi, le choc de monde.
Moi, je vois des affinités, en fait. Je vois des affinités. Je me demandais si on pouvait les voir aussi comme deux mondes où l'engagement étant peut-être pas moins effectif du côté du rap que de ces engagements de personnalités venues du peuple qui étaient donnés à l'Assemblée.
Bien sûr, je suis d'accord.
Moi j'ai du mal à répondre à ça parce que c'est pas quelque chose, comme je vous dis et je vous le disais là tout à l'heure, c'est je n'ai pas pensé à l'artiste musical quand on a pensé à Didier, quoi. J'ai pensé à l'artiste que c'est en règle générale.
Ouais, bien sûr.
Moi c'est ça qui m'intéressait profondément. Après le timbre de sa voix, quand on parlait de Robespierre, voilà, je vous disais tout à l'heure que je me dis que ces gens là s'ils sont réveillés et qu'ils entendent, ils se disent tiens, bon, bah, y en a un, il envoie, en tous les cas, il y a une générosité là-dedans. Je pense que ça serait trop réduire ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du théâtre, de dire que c'est une chose nouvelle ou une chose étonnante que ce spectacle-là avec cet artiste-là soit sur scène, tout ça, parce qu'il y en a plein d'autres, quoi. En France, juste en Île-de-France, il y a, je crois, plus de 450 spectacles qui jouent tous les soirs, et il y a tant d'artistes qui sont des dingues, quoi. Et j'en connais tellement qui sont vraiment des aventuriers de l'art, quoi. Donc je peux pas, j'ai pas envie qu'on reçoive le truc de se dire c'est dingue d'avoir mis Didier au théâtre et c'est un truc de fou. Non, c'est je peux pas.
Enfin, je m'étais dit quand même qu'il y avait quelque chose d'inédit et de un parallèle assez.
Le parallèle, je l'entends vraiment parce qu'après, on en a parlé juste avant, vous vouliez parler de, moi je leur ai fait la mise en scène après de leur concert de NTM et donc à la différence c'est que là c'était Joey, moi souvent je l'appelle, enfin, au théâtre c'était Didier, voilà, et d'un seul coup quand il est dans son groupe de musique c'est Joey, mais il y a un autre protagoniste qui est très important, qui est Bruno, qui est Cool Chain. Et c'est deux identités très différentes et qui se complètent, et c'est un truc de fou. Et leurs textes sont aussi, et ils le disent eux, que c'est, en tous les cas, à l'époque, je reprends leurs mots, que c'est un constat d'urgence, quoi. Donc c'est peut-être le parallèle qu'on pourrait faire avec les discours sur la misère, sur Lamartine et sur l'impact que ce spectacle-là a. Voilà, c'est la seule chose, en tous les cas, que je peux voir, mais c'est que ces hommes et ces femmes. Qui ont écrit ces discours et qui les ont prononcés, ils étaient faits pour le peuple, voilà, et que eux, dans leur musique, et en tous les cas Didier, ils parlent du peuple, voilà, mais comme d'autres artistes le font aussi. Voilà.
plus dur, c'est de sortir de la cave. Et les gens le savent.
L'occasion de nous éclairer plein feu sur la mise en scène du retour de NTM à la Corotel Arena. Qu'est-ce que ça donne pour toi qu'est-ce que c'était de faire ça? Comment c'est d'ailleurs de faire? Comment on peut imaginer ton travail de mise en scène?
Ah bah c'était pas rien, c'était une grande chose. Déjà c'était extrêmement touchant qu'il me propose Didier. De participer à cette aventure et après, comme je vous disais, ils sont deux dans cette aventure et j'ai dit à Didier, quand il m'a envoyé un texto à 2h du matin en me proposant de faire la mise en scène, j'ai mis 2 jours avant de lui répondre, parce que j'aurais jamais pensé qu'il m'enverrait ça. D'ailleurs j'avais appelé Pierre en disant c'est dingue, l'autre il m'a proposé de faire ça, c'est un truc de barjot. Et 2 jours après je l'ai rappelé, j'ai dit voilà, je suis extrêmement touché, mais il y a une donnée que je n'ai pas. Nous, on vient de passer un an ensemble, donc on a appris à s'apprivoiser, à se connaître, voilà, à travailler ensemble. Mais il y a ton autre acolyte, que je respecte aussi énormément en tant qu'artiste, que je ne connais pas. Et donc il faudra d'abord qu'on se rencontre et de voir s'il y a un courant qui passe, comme il est passé avec toi. Et il s'avère que ça a mis du temps, parce que je crois au temps. Et que les choses, elles se font pas rapidement. Donc on a pris le temps avec Bruno de se rencontrer, de s'interroger. Et puis après, on est parti dans ce qu'il voulait faire, pourquoi il revenait sur scène. Et tout ça, après, c'est juste pour faire un parallèle, parce que de plus en plus, le monde de la musique fait appel à des metteurs en scène de théâtre, et que quelquefois, les gens ne comprennent pas bien, les producteurs de musique ils comprennent pas bien pourquoi on fait appel à... ils savent pas trop, ils pensent que on va faire la scénographie, qu'on va tout faire, ils se disent on va payer moins de thunes. C'est pas vrai, c'est juste metteur en scène, c'est d'avoir une vision et après on engage des artistes adaptés au projet.
Et là c'est un peu différent, faire la mise en scène sur une tournée de concert.
Non, ça reste la musique, c'est des mots, hein. Pierre il écrit des mots. Moi, un texte de théâtre, c'est des mots au départ. Après, c'est de les mettre en voix, de mettre des corps qui va les dire, de les faire bouger dans un espace scénique. Donc, une cage de scène d'un théâtre ou une cage de scène comme l'Arena ou comme d'autres salles, ça reste une cage de scène, un espace à remplir. Donc, à partir de là, c'est de faire des mouvements et de raconter une histoire. Après, elle est différente dans le monde de la musique. Mais je crois qu'aujourd'hui, les gens dans le monde de la musique, il y a une telle opulence de l'image auquel on a accès et tout ça, que quelquefois revenir à l'essence et donc aux mots, je crois que c'est un chemin pas inintéressant à entreprendre aujourd'hui. Et là était le projet pour le retour de NTM. En tous les cas, ça a été la base. Et après la base, la première interrogation qui est venue, c'était de se dire que, parce que Didier nous l'avait dit d'ailleurs au cours des répétitions, que les 3 Bercy avaient été vendus en 9 minutes, ce qui représente 45 000 places, ce qui est très différent du théâtre de l'Atelier où il faut en vendre 800. 45 000 en 9 minutes, on se dit putain, c'est un truc de dingue quoi quand même. Je crois qu'ils sont 3 groupes à avoir fait ça, et dedans je crois qu'il y a les Rolling Stones. Donc c'est quand même un truc. Donc moi je leur ai dit, mais qu'est-ce que les gens ils attendent? Il y a déjà quelque chose, en tout cas, à s'interroger et apprendre à découler des discussions sur l'électricité. Voilà. Et donc le thème, c'était l'électricité.
Mais pour eux, c'était particulier de travailler de cette façon avec un metteur en scène avant. Comment s'organiser leur plateau
pour Didier, comme on avait passé avec Pierre un an auparavant à travailler sur scène, pour lui, c'était quelque chose qu'il avait rencontré et qu'il avait envie. Pour Bruno, il avait envie parce que Didier lui disait que c'était... Enfin, il était touché que Didier lui propose qu'il y ait une autre personne qui vienne là. Et puis après, ça a mis un peu plus de temps pour que Bruno comprenne bien la place et le partage, quoi, et le rôle, quoi, que ça allait apporter et ce que ça pouvait apporter. Parce que moi, j'ai dit NTM, ça marche presque avant que j'étais né, et ça cartonne, et ça cartonne toujours, donc vous n'avez pas besoin de moi. Voilà. Donc à partir de là, c'était tranquille.
Bon, alors électricité, c'est fait avec lumière. Lumière, décor, un peu, projection, mais surtout, même les déplacements, tu pourrais dire que les danseurs dansent où ils veulent, ou... non ? T'avais vu des discussions même là-dessus, sur l'occupation de l'espace ?
Sur l'espace, ouais, on a eu beaucoup de discussions, parce qu'après, quand on s'attaque à Bercy, c'est, peut-être je vais dire une connerie, mais pas très loin, c'est 24 mètres d'ouverture et 18 mètres de profondeur. Sur 2 heures de show, c'est très très grand, quoi. C'est-à-dire que c'est des athlètes les deux, mais là, sur 2 heures de tenir en chantant comme ils le font et en proposant une énergie sincère, parce que alors, s'il y en a deux qui sont bien sincères et qui donnent tout, c'est eux. C'est comment proposer de canaliser un espace, et que quelquefois c'est pas forcément en donnant un espace très grand que ça provoque au spectateur une immensité. Quelquefois, en réduisant l'espace, ça peut provoquer un sentiment, parce qu'après, à côté, il y a du vide, et le vide, c'est le noir. Et le noir, c'est comme ce qui se passe là-haut, c'est l'inconnu. Et l'inconnu, ça propose un espace gigantesque, beaucoup plus grand que si on l'allume, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc là, l'imagination, il se met à travailler. Enfin bon, c'est des conneries, mais c'est le travail d'un metteur en scène. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir embarqué dans l'infini là, un peu de temps. Ben oui. Bah merci de me regarder avec des gros yeux comme ça.
tu veux que je relance sur quoi ?
Bah, ça tombe très bien, tu vas relancer, parce qu'on va parler, de toi, de cette passion et de ce métier que j'avais pas non plus pris conscience qu'il existait.
Métier en voie de disparition.
Voilà, le métier de parolier. Donc toi, tu es Pierre, écrit des textes et offert l'opportunité à des grandes personnalités de la chanson française de les chanter.
Non, c'est eux qui m'ont donné l'opportunité, c'est pas dans le sens contraire. Soyons restons calmes.
Est-ce que tu donnes l'opportunité de nous avoir apporté à tous qui les ont écouté des belles chansons ?
J'ai pas compris.
Tu nous as offert des belles chansons.
Ouais. J'ai fait 2-3 chansons.
Est-ce qu'on peut mettre celle qui a donné le titre du livre que tu as écrit ?
Oui, allons-y.
Bon, plaisir. Alors, on passe à une ambiance un peu plus mélancolique.
Et sexy.
Les deux cylindres si longs
qu'ils sont le seul qui la remplissent de bonheur.
Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totem qui la ternissent. Vague perpétuelle, sismique et sensuelle. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. On est loin des amours de loin, on est loin.
ad libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. De fougères, des foudres et de guerre, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle.
Des applaudissements qui te reviennent en
partie.
Oui, hein, Pierre.
En partie. We are back.
Donc de retour sur Funtug avec Jérémy Lippmann et Pierre Grillet.
Ouais.
Alors, cette chanson, c'est aussi le titre d'un livre.
Oui, c'est vrai.
Que tu as écrit maintenant, enfin qui est paru il y a 3 ans.
Qui est paru il y a 2 ans, 2-3 ans.
Et qui met en lumière à la fois tout le travail que tu as pu. Faire vivre, qui est ton travail de
non c'est, en fait je raconte pas du tout l'histoire de je raconte en fait l'histoire d'amour qui m'a inspiré cette chanson, et je parle beaucoup de cette personne qui a été importante pour moi, que j'ai vue pendant très longtemps, et je le raconte sans être très précis sur les dates, tout ça c'est plutôt une évocation. Je sais pas, les gens disent que le livre est assez poétique, mais je dis pas en telle année j'ai rencontré machin. C'est pas du tout un livre historique dans ce sens-là.
Mais d'une part, on oublie parfois qu'il y a le parolier derrière des grandes interprétations.
Ah bon, on l'oublie tout le temps, c'est normal. C'est la règle du normalement. Si la chanson est bonne, tout le monde doit penser que c'est le chanteur qui l'a écrite.
Oui, comme tu l'écris à un moment dans ton livre.
Ah bon, tu l'avais lu?
J'ai fait ce que j'ai pu en peu de temps, et j'ai écouté déjà quelques quelques extraits. Mais c'est vrai que même les gens, comme tu dis, même les gens qui ne se foutent pas des paroles se foutent de qui les écrit.
Bah oui.
Et que
bah, il y a des chansons que j'adore ou des films que j'adore. Je dirais j'adore ce film. Tu vois, je serais capable de dire qu'il a écrit en fait. Donc on est tous pareils en fait, d'une certaine façon. On s'intéresse. C'est la sensation qu'on reçoit. Et on n'est pas tout de suite intéressé pour savoir qui l'a fait.
Mais ton livre est le pré...
Les cathédrales, on ne sait pas qui les a fait.
Comme...
Non, c'est vrai.
Et là, là réapparaît avec ce livre aussi l'idée que bah, toi, tu as été... tu mets dans toutes ces... Dans ces chansons que tu écris, les histoires de ta vie de manière...
Oui, pas d'une, plus peut-être pas d'une manière, tu vois, c'est pas une autobiographie, littéral, mais ben on est dans les choses qu'on fait, oui, toujours un peu. Les gens se croient, depuis que j'ai fait cette chanson, tout le monde pense que je suis obsédé sexuel, et que dans toutes mes chansons, il y a à un moment donné, il y a un truc un peu tendancieux, etc. Et peut-être c'est vrai, je me rends pas compte, je fais pas exprès. Et... enfin, c'est tellement vrai.
Enfin, c'est des chansons d'amour, donc on a le droit quand même d'avoir plusieurs degrés.
Ouais, ouais, non, mais c'est. Enfin, moi, j'ai pas de problème, mais.
D'érotisme.
Disons que. Non, mais je me rappelle une fois, j'ai fait cette chanson-là pour une artiste, et je me disais, ils vont trouver ça tendancieux, et comme c'est moi, ils vont dire, non, c'est forcément obscène. Et donc, je n'ai pas dit que c'était moi qui l'avais écrit, je me suis caché. Et pour finir, l'artiste a découvert que c'était moi quand le disque est sorti, qu'elle a reçu la pochette. Parce que j'avais peur qu'on dise « Ah ouais, mais si, comme c'est Pierre, ça doit être un peu particulier. »
Alors, entre Sylvie Vartan, Nicoletta, Vanessa Paradis, c'est des rencontres à chaque fois où il me semble que j'ai lu dans un article qu'il t'était arrivé aussi de devoir, pour un album, écrire très rapidement sur une musique qui était déjà composée. Mais c'est avec Johnny Hallyday.
Voilà, c'est pour Johnny Hallyday. Enfin oui, c'était la veille de la fin de l'album, on m'a appelé, tout ça. Je suis resté dans ma voiture, dans le studio, et puis je l'ai fait. Puisqu'il faut des anecdotes, c'est toujours assez marrant. Donc il y avait Johnny qui était là, c'était la première fois que je travaillais avec lui, et il a commencé à chanter le couplet et le refrain, et puis il s'est arrêté, et puis là il y a Sandrine Kimberlin qui était rentrée dans le studio pendant qu'il chantait, et elle a dit « Ah, c'est magnifique », il a dit « Bon, alors je la finis ». Tu vois, c'était comme ouais. Ça, dernier jour, bon, bah, je la finis, tu vois.
C'est ce que tu m'expliquais, c'est comme s'il y avait des contingences très, très fines, nous, quand on entend les chansons, et puis on les assimile parfois très vite, et elles nous reviennent, enfin, on les intègre.
Dans ce cas-là, facilité. C'était un truc de... Non, mais normalement, t'es au début des albums, ça prend 2 ans pour se faire, là, avant que la chanson soit entendue, ça prend des années, enfin, tout ça est très long. Et dans ce cas-là, c'est le cas rêvé. C'est le dernier jour du studio. Tu fais la chanson. Une semaine après, il y a le PK. Après, il est à la télé. Enfin, là, ça va très vite. Là, c'est vraiment le cas très sympathique. Tu le vis en live bien, quoi.
Mais il y a aussi l'inverse. Et parfois, en début de... Enfin, quand tu as commencé... Il y a aussi toutes les musiques qu'on envoie dont on n'a pas de nouvelles.
Oui.
Et l'impression qu'une contingence très fine peut décider qu'elle soit acceptée ou non.
C'est toujours très fin. Toujours, ça tient toujours à rien. C'est quelqu'un qui dit « Ah non, je l'aime pas ». Et puis, les gens rentrent chez eux, les artistes, je faisais des... Ils rentrent chez eux, ils ont une famille, des enfants, une femme, ils font écouter. Et puis, il y a son fils qui dit « Ah ouais, tu vas pas chanter ça, papa ». Et puis le mec, il dit « Ah bah non, bah je l'aime plus. Voilà. » Tu vois, c'est très fragile. Parce que tout le monde a un entourage. Il y a très peu de gens qui sont très sûrs. Par exemple, on travaille, Jérémy et moi, avec une artiste qui s'appelle Dani. Jérémy prépare une pièce avec elle. Moi, j'ai fait beaucoup de chansons avec elle. Et elle, par exemple, elle est très sûre de son choix de chansons. Si vous avez l'occasion d'aller voir un spectacle de Dani, elle est très très bonne sur scène avec une guitariste. Et elle n'a pas une mauvaise chanson. Toutes les chansons, c'est une histoire. Il n'y a pas une mauvaise chanson, quoi, ou qui comble un vide, ou qui raconte pas. Vraiment, elle, si elle voit les bons artistes, enfin, en ce qui, pour moi, c'est des artistes qui voient passer une chanson et qui disent celle-là, elle est pour moi, et qui font tout pour la voir. J'en ai, et ceux qui savent pas, qui disent ah ouais, tu crois que je peux la chanter, ouais, ils sont nazes.
Alors t'en as une là comme ça dans ton histoire, une de ces rencontres?
Non, mais par exemple, Marc Lavoine sait très très bien choisir ses chansons, et s'il voit passer une chanson où il sent que c'est qu'elle est pour lui, il va la voir. Hein.
Laquelle de tes chansons a été comme ça choisie?
Bachung, par exemple, ou Bachung prenait pas tellement de trucs extérieurs.
Comment ça s'est fait alors?
On m'a appelé, on m'a dit tiens, Alain, il cherche des choses. Moi, j'aimais beaucoup Boris Bergman, je connaissais toutes les chansons qu'ils avaient fait ensemble. Je pensais vraiment qu'il n'avait pas besoin de changer, ou de moi, ou donc j'étais un peu intimidé quand même. Et donc j'ai envoyé des espèces de bouts, des trucs, des petits extraits, pas des chansons vraiment finies, tout ça. Et je lui ai envoyé ce truc-là, il m'a rappelé, il m'a dit « Ah ok, ça m'intéresse », et tout ça, voilà. Donc...
Et dans ces cas-là, cette histoire que tu racontes dans ton livre, il ne la connaît pas, lui?
Quelle histoire?
C'est l'histoire de Madame Rêve.
Ah non, il ne la connaît pas du tout, alors. Ah non, je lui en ai jamais parlé. Il était très timide, moi aussi. On ne s'est pas beaucoup parlé de notre intimité. Je l'ai peu connu, Alain. Je l'ai fréquenté, j'ai travaillé avec lui, tout ça, mais ce n'était pas mon ami. J'avais pas d'intimité avec lui.
Donc c'est assez insolite d'avoir d'un seul coup cette chanson dévoilée par l'histoire que tu racontes.
C'est assez insolite d'en avoir fait une et qu'elle soit, disons, dans sa discographie, elle est à part et les gens l'aiment bien. Voilà.
Et pour toi, elle est au cœur de ton histoire personnelle. Disons qu'elle a été magnifiée.
Je ne pouvais pas le savoir quand je l'ai vécue et quand je l'ai écrite, etc. Cette chanson, entre le moment où je l'ai écrite et le moment où il la chante, il se passe 11 ans. J'ai même failli la chanter moi.
Et justement, comme vous l'avez
Mais oui, j'ai failli la chanter moi. Enfin, la chanter moi, à ma manière. Non, j'adorais un joueur de harpe. Qui s'appelle toujours, je pense qu'il n'est pas mort, qui s'appelle Andreas Vollenweider. C'est un harpiste suisse qui faisait de la musique New Age. Mais vraiment intéressante, ça vaut le coup d'aller écouter ce qu'il fait. Et il y avait un disque sur lequel il y avait un morceau, et quand j'écoutais ce morceau, je pouvais placer mon texte pas mal dessus. Ça marchait bien, tu vois. Et je vais pas raconter toute l'histoire, mais bon, je vais vite. J'avais rencontré un producteur qui s'appelait Jacques Volson, qui était le producteur de Dutron, de Françoise Hardy, un mec vraiment que je respecte beaucoup. Et paye à son âme. Et lui, il me dit, bon, d'accord, ok, c'est intéressant. Et donc, on envoie la chanson, le texte, à Andreas Vollenweider à Londres. Et il répond, il n'y a pas de bombes ou d'armes dans mes chansons. Et dans la chanson, dans le texte, Madame Rêve, d'un revolver qui la flingue, etc. Tu vois, ils n'ont pas compris que c'était un jeu de mots, que c'était une image. Et donc, je ne veux pas de revolver dans ma musique. Parce qu'au début, le texte était « Elle rêve de bombes, d'atomiseurs ». Il y avait le mot « bombe », le premier mot de la chanson, c'était « bombe ». Elle rêve de bombes, d'atomiseurs et de cylindres, etc. Et donc, on n'a pas pu le faire. Et donc, ça a pris toutes ces années, personne ne voulait le chanter. Je l'ai même présenté à... Un jour, je suis dans une soirée, j'avais toujours ce texte sur moi, tu vois, parce que je l'aimais bien et tout. Et je rencontre Louis Chédid. Et donc, je lui dis, bah tiens, j'ai une chanson, j'ai un texte, tout ça. Il le lit, tout ça, il me l'a rendu un peu dégoûté, comme ça, je me rappelle. Et donc, il y a eu beaucoup de tu vois, de circonvolutions, de coïncidences, de choses, tu vois. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit « Madame est servie ». Et donc, je suis allé l'écouter, acheter le livre.
Ouais. C'est pas les armes qu'on retient en plus dans cette chanson.
Comment ?
C'est pas.
Oui, ce sont pas les.
Non, c'est pas l'image violente de l'arme. C'est pas l'image violente.
Ah non, mais je sais. Mais disons que eux, les Anglais, ils ont traduit littéralement, ils ont vu bombe. Ils ont dit non, merci, ça va pas. C'est pas possible. Mais je comprends, lui, c'est un mec New Age, très peace. Mais sa musique, c'était une musique des années, 75 ou je sais pas, quelque chose comme ça. Il faisait des concerts dans le monde entier. C'était bourré à Los Angeles, je me rappelle. Bon, vous écouterez si ça vous intéresse. Andreas Vollenweider.
Très bien, merci. Mais du coup, quand même beaucoup de surprises, toi, en permanence, dans les.
Moi, je me laisse porter. Donc,
tu réentends les textes que tu as écoutés, c'est une succession de surprises quand même.
Il n'y a pas de
la partie instrumentale.
Il n'y a pas de plan de carrière, ni de plan de. Tu sais jamais comment la chanson va te revenir. Tu fais une maquette sur une guitare, t'adores, c'est formidable, etc. Puis après, il y a des arrangements, il y a des trucs. Parfois, ça te plaît pas du tout. Et parfois, ça te plaît pas du tout et ça marche. Et alors là, au bout d'un moment, tu aimes. Parce que le succès est une espèce de crème qui fait passer. Et il y a des trucs que t'as pas trop aimé. Je me rappelle, il y avait une version de Selawat avec des chœurs africains qui faisaient Selawat, que j'aimais beaucoup. Tu vois, il y avait un truc. Et puis à la version finale, ils étaient plus. C'était triste, mais ça a bien marché.
C'est incroyable parce que là, il y a plein de styles différents, surtout les années 80 qui ont été riches de summum, d'affirmations de style improbable. Je trouve qu'on a essayé de réécouter certains des titres en choisissant pour l'émission et c'est assez fou.
Ah, t'as pas écouté Je suis de bonne humeur ce matin, il y a des matins comme ça.
Ah oui, mince. Si, j'ai écouté, ouais. Bah, comment il s'appelle Tristan.
Ouais. Ça, c'était bien, ça, non? Et je me rappelle Tristan. Enfin, je ne vais pas raconter ma vie.
En tout cas, on a une réponse. Tu les chantes, les textes, pour les essayer. Tu les chantes.
Non, mais tu parles des coïncidences. Je vois passer Tristan dans la rue, en bas de chez moi.
Il était en basket et il claquait.
Non, il avait une dégaine que j'aimais. Quoi. Je cherchais les jours. Il avait une dégaine que j'aimais. Je lui ai dit, tiens, viens. Et voilà, on l'a fait. Mais lui, s'est vraiment bien approprié la chanson. Il l'a rendue comme j'attendais pas du tout qu'il la rende. Il l'a vraiment pris à lui, très agressif. Et tu vois, je suis de bonne humeur, mais lui, il le fait vraiment. Je suis les mains. C'est vraiment bien, quoi. Non, c'est une bonne époque.
Et alors, c'était évident pour toi de travailler déjà les textes dans d'autres domaines et d'aller vers la scène?
J'ai toujours écrit des scénarios parce que j'étais très cinéphile à une époque. Je suis moins. Et on a toujours écrit des scénarios avec des gens, des amis, des trucs, des...
D'écrire quoi, de mettre en mots.
On a toujours inventé des histoires. Alors maintenant j'en fais un peu et tout ça, toujours, j'ai toujours continué, mais...
C'est pas que les mots, le scénario en fait, mais même une chanson, c'est pas que des mots.
Je me suis rendu compte un jour que j'avais plus d'imagination que les autres. Je pensais que tout le monde a de l'imagination. Mais en fait, tout le monde n'a pas autant d'imagination. Moi, j'ai de l'imagination. Même si tu me dis réfléchis à un frigidaire, ça m'intéresse. Je vais dire tiens, comment on peut le faire. C'est-à-dire que le sujet, tu peux me proposer un sujet, ça me fait démarrer. Je vais commencer à réfléchir. Jérémy, c'est pour ça que je crois qu'il m'aime bien. C'est qu'on peut partir sur un peu n'importe quoi et on se met à réfléchir.
Et alors, le film, parce que tu...
Non, j'ai écrit un film qui va passer sur Arte au mois de janvier, fin janvier.
Qui n'est pas sur un frigidaire.
Non, c'est pas sur un frigidaire. Mais bon, on va pas raconter. Non, mais
c'est une histoire d'amour.
C'est un conte sur est-ce qu'il est possible de changer de milieu? Est-ce qu'il est possible à 20 ans quand on est destiné à aller travailler dans une ferme industrielle, est-ce qu'on peut se permettre de rêver et de changer de vie? Donc on a essayé de raconter cette histoire. Et c'est assez joliment mis en scène par Alain Tasma, qui a fait beaucoup de films à la télévision. Et voilà. Et donc ça va passer, on aura l'occasion de savoir si c'est bien ou pas.
Comment ça s'appelle alors pour
ça s'appelle « Je sais tomber ».
Je sais tomber, ça va sortir quand sur Arte?
J'ai pas le droit de donner la date parce qu'elle n'est pas encore officielle, mais elle sera officielle mardi.
D'accord, très bien.
Mais c'est fin janvier.
Fin janvier, ok, très voilà. Bien. Et amusant cette histoire de ferme industrielle, tu sais, qui est le dernier livre de Houellebecq.
Oui, alors c'est sur les cochons. Alors je me suis intéressé aux cochons et. Enfin, je me suis intéressé aux cochons superficiellement. Mais les cochons ont un regard extraordinaire. Et d'ailleurs, les gens qui s'en occupent évitent de les regarder dans les yeux.
Parce qu'ils sont un regard
parce que
assez
ça te humain. Rend, parce que ça te rend coupable.
Ouais, ça va être difficile de revenir dans le sujet. Mais
oui, parce que on va sur Internet, regarde, il y a des images de cochons. Il y a des yeux de cochon, je te jure, tu peux pas leur faire du
mais
mal
oui,
quand ils te regardent comme ça.
Parce qu'ils ont un regard assez humain pour...
Non, mais c'est très intelligent, un cochon.
Voilà, pour aller dans une ferme.
Dans le cochon, tout est bon.
Bon, en tout cas, suspense. Comment revenir à... Si
non,
on,
mais
on
le,
peut,
le,
on...
le comédien est formidable. J'ai oublié son nom à l'instant où je parle de lui, mais il a obtenu le prix de la révélation masculine au Festival de La Rochelle pour ce film.
En tout cas, pour rester sur...
Benjamin
de...
Voisin.
D'accord.
J'ai une mémoire un peu en escalier.
Alors, pour ces dernières minutes qui nous oui. restent, et pour
j'ai
revenir...
J'ai beaucoup parlé, là. Je suis navré.
Non, mais tu... ne sois pas navré. C'était avec plaisir que tu puisses donner quelques
pistes. Je pouvais digresser.
Je suis de bonne humeur ce matin. Il y a des matins comme ça. Je suis de bonne humeur ce matin, y'a des matins comme ça. Il fait beau, putain c'est rare. Plus je travaille, et moins je me marre. Et les requins sont dans la Seine. Mais ça baigne, c'est une vie saine. De ramer sans s'arrêter. De Madeleine à la prochaine. Faut que je trouve rapido la meuf qu'il me faut. Y'a des matins comme ça. Un bon pas de peau, je leur dois trop. Mais j'avance bien mieux avec le ventre creux. Je prie à mort le dieu des fesses qui me laisse pas sans gonzesse. Je chope un bus, oi 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 is. Putain de bus qui glisse et qui se trompe de piste. Dans les couloirs tirés par la police. La langue du Mac à Damien. Des gens qui trouvent ça beau. Applaudissent dans notre dos.
Paris est plein de Parisiens. Pas assez de Parisiennes et trop de Parisiens.
revenir au théâtre qui vous a uni et à l'idée des projets futurs. Toi, Jérémy, il y a beaucoup de choses. Quand je disais que tu dépassais les préjugés, c'est que, et même si le théâtre aujourd'hui est sûrement riche de plein de rencontres, le théâtre que toi tu mets en œuvre, j'ai l'impression qu'il y a toujours des surprises. Des surprises dans les choix des personnes à qui tu vas travailler, des déplacements comme ça, oui, parce qu'ils sont souvent, parce que tu as cette vision de l'artiste qui est.
Non, mais il se laisse surprendre.
Moi, j'écoutais la pierre. J'adore écouter Pierre. Voilà.
Mais toi, tu te laisses surprendre aussi. On vient lui proposer des choses où il n'aurait jamais pensé les faire, puis tout d'un coup, il a envie de les faire.
C'est aussi ça, la vie.
On décide pas de tout.
Non, mais c'est d'être curieux, en fait, au fond, fondamentalement. C'est d'essayer de garder cet instinct de curiosité qui nous est donné au tout départ quand on est. Moi, je viens d'avoir une petite poupette, une petite rominette, et je vois ce petit bout de chou de 2 ans et la curiosité de cette machine de guerre qui peut te foutre un bordel dans ton appart ou n'importe où qu'elle soit. Mais en fait, tu te dis que la nature t'offre la curiosité et que je pense qu'aujourd'hui, c'est la chose auquel il faut être le plus précautionneux. C'est de garder cette foi en la curiosité parce que on nous fait croire qu'on a découvert le monde, patati patata, on n'a rien découvert du tout. Il y a tant de choses encore à découvrir, c'est juste qu'il faut avoir les yeux bien ouverts et d'être un peu sensible à ça. Et à partir de là, ça se passe bien. Et la vie, je pense qu'elle se passe bien après, derrière.
Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui nous arrive. Avec toi, hein. C'est surprenant.
Ben non, c'est vous, Églantine, vous avez été curieuse, vous nous avez invités.
Johanna, désolée, en cabine. Alors avant de se quitter, Pierre nous a dit que tu allais travailler avec Dani, mais j'ai chanteuse.
Oui.
Mais qu'est-ce que tu peux nous dévoiler de ce qui va suivre, toi, de ce que tu vas nous proposer? Bon, déjà, pour revenir à Éloquence à l'Assemblée, le spectacle tourne. Ouais. Prochaine représentation, donc vous l'avez fait dans une usine à Toulouse. Vous pensez la faire des représentations en prison aussi?
Ouais.
Continuer à faire vivre le texte un peu.
Voilà, encore jusqu'à septembre prochain, donc il sera en tournée.
Et puis partout en France, ouais.
Voilà. Après, il y a un spectacle qui se joue encore, qui est Mon Ange, sur les combattantes kurdes qui ont combattu Daesh à mort. Et le spectacle retrace la vie de l'ange de Kobané.
Avec une actrice extraordinaire.
Ouais, Lina El Arabi, une dingue. Et c'est un spectacle qui est sur les routes et qu'il faut vraiment... que je vous conseille d'aller voir. Après, il y a un autre spectacle qui est sur les routes depuis très peu de temps, qui est de Gotan Project avec Catherine Ringer que j'ai fait. Et puis, samedi prochain, il y a 3 spectacles sur le Paris des femmes, qui est un festival initié par Anne Rothenberg, qui se passe au théâtre de la Pépinière Opéra. Et en fait, la particularité de ce festival, c'est que c'est que des écrivaines qui ont écrit ces petites pièces. Et c'est pas forcément des auteurs de théâtre, c'est des romancières ou tout ça. Et elles s'essaient pour la première fois à écrire une petite pièce de théâtre qui dure 20 minutes. Et il y a 3 soirs, ça commence le 9, donc jeudi prochain. Et c'est sur 3 jours, jeudi, vendredi et samedi prochain. Moi, je fais samedi prochain.
Ah, et toi, tu fais en qualité de...
De metteur en scène.
D'accord. Donc tu mets en scène un texte,
trois
textes.
Ouais,
d'accord. Textes, Donc c'est une rencontre entre des jeunes auteurs et des
auteurs. Non, c'est des auteurs
de tout âge, mais femmes.
De tout âge, mais c'est que des femmes, ouais, qui ont écrit.
Et des premiers
et
textes.
Et le thème c'est noces.
D'accord.
Ouais.
Ok. Voilà.
Faut venir.
Bah, bien sûr, bah, ça donne envie. Hein.
Je sais pas, mais faut venir.
Bon, alors, on va bientôt clore cette émission, en dépassant toujours d'une minute. Je crois que ça devient notre récurrence. Que dire d'autre? Bon, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Sharon Stone?
Ah, on a dépassé. Non, c'est un
dommage.
Spectacle. C'est un spectacle que j'ai été faire et que j'ai été répéter avec elle pendant 3 semaines à Los Angeles. sur la solitude de la femme, qui dénonce la solitude de la femme dans une grande ville. C'est un texte de théâtre et le seul au monde qui est écrit que de didascalie. Les didascalies, c'est ce qui est, c'est les intentions,
c'est
des,
les intentions des
auteurs comme Pierre. Ouais. Et quand elles sont dingues, elles sont vraiment dingues. Et là, il y a un mec, Frank Xaver Kreutz, qui a écrit une pièce que de didascalie.
Très bien. On pourra le voir en France ? Qu'est-ce que j'ai dit ? On pourra voir, quand est-ce qu'on pourra voir le spectacle ? Non ? Mauvaise question, qu'est-ce que j'ai dit ? Je me suis perdue.
T'as rien dit, tu montres un panneau que je regarde et qui est Story Telling.
Ouais, pour lancer Story. Le dernier... pour lancer le dernier titre, qui a un titre de Medine, donc normalement Joey devrait nous pardonner. Merci d'être venu.
Merci.
Ben, merci à toi.
Ces questions qui seront restées en suspens, bon, trouveront peut-être pas de résolution. La suite au prochain épisode. Au plaisir de vous revoir chacun dans vos créations.
Merci.
Merci Johanna.
Le meilleur moyen de changer le cours de l'histoire, c'est d'en raconter, mais les plumes de mon style ne troublent les cauchemars d'aucun banquier. Quand j'ai demandé des sources, on m'a dit c'est l'homme qui a vu l'ours. Qu'Adam et Ève étaient le couple Underwood, que la vérité n'est qu'une ruse de Sioux. L'histoire est racontée par une bande de mythos qui vendrait du Théo à la Vénus de Milo, qui ne vise que les ondes de plaisir de nos cerveaux. Finalement c'est peut-être les épines qui ont des roses, ou bien les monstres cachés sous les lits, qui ont peut-être peur des gosses de quartier. C'est dans les maisons closes qu'il y a les filles les plus ouvertes de l'humanité. Sur la map monde, plus forte est l'Afrique. Quand tu la regardes sur carte inversée, sais-tu que Jésus, dans aucune église de toute sa vie, ne mettra les pieds. Un conteur c'est celui qui raconte ou qui comptabilise. L'histoire c'est un peu comme une foi qui exige un rib. L'histoire est racontée par une bande de mythos qui vendrait du Théo à la Vénus de Milo, qui ne vise que les ondes de plaisir de nos cerveaux. Finalement c'est peut-être les épines qui ont des roses. Adam a inventé le péché, mais c'est son fils qui l'a breveté. Il se taille des steaks de burger dans les côtes d'une vache sacrée, se fait des rajouts à ses coiffures avec des cheveux d'indienne qu'il a scalpé. S'il donne de l'amour à son bétail, c'est pour s'assurer d'une viande maturée. Nos mémoires sont des bureaux d'études, faits d'informations et de quelques nuls. On ne déjoue pas le cryptage de l'histoire avec une passoire comme devant Canal+. Tout ce qui cohérent n'est pas forcément vrai. On voit pas vraiment le monde au casque VR. On est des aveugles avec les yeux bandés. Quand on marchera sur Mars, ce sera sur fond vert. Si aujourd'hui les hommes préhistoriques revenaient, on ne les laisserait même pas rentrer à l'Asco. Paraît que les Égyptiens sont des extraterrestres, ou peut-être que Dieu nous a privés de leur méthode. Les Kennedy disaient faut pas se laisser abattre, une devise qui n'a jamais rien empêché. Les frontières sont-elles tracées par des soldats, ou en vérité tracées par des banquiers? Paraît que Michel-Ange dessinait que les contours, qu'il avait des remplisseurs pour finir l'œuvre. Peut-être que Dieu n'a créé que ce qui nous entoure uniquement pour qu'on colore le destin de l'homme. L'histoire est racontée par une bande de mythos qui vendrait du Théo à la Vénus de Milo, qui ne vise que les ondes de plaisir de nos cerveaux. Finalement c'est peut-être les épines qui ont des roses. J'avance tout droit, reculons dans la frise chronologique. Je réponds aux questions par des questions quand je joue au trivial poursuite. Je crois que l'histoire me trompe comme la longueur du mot abréviation. Alors je veux plus savoir, je veux me protéger de mes propres démons. On a vécu par procuration les complexes de nos ancêtres. Je veux que mes gosses aient une vraie jeunesse. Je me méfie de ce qu'on leur enseigne. Je me méfie des dates, des noms, des il était une fois, des un tel a dit. Je leur ai donné des prénoms historiques pour que leurs homonymes et les oreilles qui sifflent. Vous cherchez une morale à l'histoire? Cherchez l'histoire de la morale. Si on n'a qu'une langue et deux oreilles, c'est pour qu'on écoute deux fois plus qu'on parle. Storyteller, un peu poète, un peu historien. Retenez que dans la magie tout est faux sauf le magicien. Et quand la légende devient réelle, ne retenez que la légende. Dans l'Odyssée depuis, préférez la version sans les gens. On n'est jamais si petit qu'en étant auprès des grands. J'ai l'intention de l'écrire. L'histoire nous sera indulgente.
Money, motherfucker. I'm a million, you heard me?